Vous écoutez RTL.
Nogent-sur-Oise vient de terminer sa cinquième nuit blanche, sa cinquième nuit de peur. Dans les quartiers résidentiels, on ne dort plus. Au moindre crissement de pas sur le gravier, au moindre craquement de branches, au moindre gémissement du vent, on sursaute. L'assassin de l'ombre est peut-être là, dissimulé dans la nuit, dans le silence et dans la brume.
Bonsoir, on l'appelle le tueur de l'ombre parce que cet homme ne frappait qu'à la tombée du soir, entre chien et loup, ou à la faveur d'un temps maussade. Marcel Barbeau, condamné pour avoir tué 5 fois sur les 8 meurtres qu'on lui imputait, est aujourd'hui le plus ancien détenu de France. 45 ans de détention ininterrompue. Au mois d'août, Barbeau fêtera derrière les barreaux son anniversaire, 80 ans tout rond. Malgré le temps écoulé, son histoire demeure stupéfiante, elle est synonyme de 7 années de terreur sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, d'une psychose qui, entre 1969 et 1976, va s'emparer de la population, des femmes en particulier. Ce sont elles que le tueur de l'ombre pourchasse et exécute à l'issue d'un rituel sadique, une série de crimes qui va faire perdre le sommeil aux enquêteurs. Voilà donc un assassin qui habite certainement cette petite ville de l'Oise, y travaille, y a sans doute des amis, une famille peut-être, mais qui ne va cesser de glisser entre les doigts des policiers. Comment Marcel Barbeau, ouvrier discret, est devenu l'un des plus grands criminels français? Que cherchait-il en tuant toutes ces femmes qu'il préférait brunes?
20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir dans l'heure du crime, le tueur de l'ombre, l'invisible Marcel Barbeau. Une trajectoire sanglante qui débute à l'hiver 1969, en début de soirée, à Nogent-sur-Oise, commune limitrophe de Creil, dans l'Oise. Ce vendredi 10 janvier 1969, aux alentours de 19h, Françoise Lecron vient juste de rentrer chez elle, un pavillon au numéro 130 de la rue Fédère, à Nogent-sur-Oise. L'épouse du sous-directeur de l'usine Saint-Gobain de Rantigny est dans sa cuisine. Il fait nuit et on peut apercevoir sa silhouette à travers le carreau. Françoise Lecron s'affaire quand soudain une vitre claque. Elle ressent immédiatement une vive douleur à l'épaule. Elle s'écroule sur le carrelage, elle est blessée, mais à la force de téléphoner tout de suite à la police. Le chef de la sûreté urbaine de Creil, l'inspecteur Courtois, et 2 de ses hommes se rendent aussitôt sur place. La victime est soignée, encore sous le choc, mais elle ne se souvient de rien. Sinon, du bruit. C'est tout simplement une miraculée. Les policiers vont relever pas moins de 6 impacts de balles calibre 5,5 mm. On a voulu tuer Madame Lecron, agression qui a sans doute un rapport avec la situation professionnelle de son mari, peut-être une vengeance professionnelle. Près de 2 semaines après les coups de feu chez les Lecron, vendredi 24 janvier, un cheminot retraité qui promène son chien le long de la voie ferrée de Nogent découvre le corps d'une femme. Thérèse Adam, une représentante en cosmétique de 46 ans, est en partie dénudée, agenouillée la face contre terre, son visage semble abîmé et a peut-être reçu des coups. Elle a été exécutée d'une balle dans la nuque. Rien de vraiment naturel dans cette scène de crime qui semble avoir été justement mise en scène. La victime habite juste à côté, au numéro 41 de la rue des Frères Perrault. Elle a été tuée la veille au soir alors qu'elle venait de rentrer sa voiture dans son garage. C'est à ce moment-là que son meurtrier l'a surprise et l'a entraînée dans l'obscurité près de la voie ferrée, un coin parfaitement désert à cette heure-là. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. L'autopsie de Thérèse Adam révèle bien la présence d'une balle, calibre 5,5 mm, exactement la même que celle utilisée pour tirer sur l'épouse du directeur adjoint de Saint-Gobain. La balistique va confirmer que c'est la même arme qui a été utilisée contre 2 femmes qui ne se connaissaient pas. Le doute n'est plus permis, un assassin rôde en ville, la presse commence à sortir quelques gros titres, le tueur sadique de Nogent-sur-Oise n'est toujours pas identifié, annonce alors le journal Oise Matin. Le tueur de Nogent-sur-Oise va bientôt devenir le tueur de l'ombre, tant cet homme semble apprécier l'obscurité. En cette année 1969, il va encore frapper, mais cette fois, on va apercevoir sa silhouette et même ses yeux, des yeux de chat. Ce 17 novembre 1969, au soir, alors qu'il pleut des cordes sur la région, un homme grand et costaud, vêtu d'un ciré de pêcheur marron, le visage masqué par un foulard rouge, fait irruption dans un pavillon au numéro 100 de la rue Faidherbe. Il est armé d'une carabine. Il y surprend Suzanne Mérienne, 44 ans, et sa fille Micheline, 19 ans. Il entraîne les deux femmes dans le jardin, puis vers un talus désolé et boueux, à proximité de la ligne de chemin de fer. Il pousse la fille, totalement pétrifiée dans un coin, il emmène un peu plus loin la mère, la ligote, et lui tire une balle dans la tempe. La jeune Micheline a alors le réflexe de s'enfuir, elle réussit à se sauver dans la nuit aux policiers et malgré sa détresse, elle parvient à décrire un individu de forte stature. Elle se souvient d'un détail frappant. Il avait des yeux légèrement en amande, des yeux de chat. Le tueur a semé des indices. Il a perdu ou laissé tomber un sac en tissu écossais. À l'intérieur, 6 balles de 22 longs rifles dans du papier journal. Un policier parle d'un homme qui habite le secteur et qui épie ses victimes. Ce serait un détraqué sexuel qui a une grande connaissance des armes à feu. La même carabine semble avoir été utilisée lors des 3 attaques. Le juge d'instruction de Senlis souhaite la diffusion d'un portrait robot. Pas de dessinateur attitré dans les rangs de la police. C'est donc celui du journal France Soir qui est recruté pour l'occasion. S'affiche ainsi dans la presse, les commissariats, les gendarmeries, le visage d'un homme jeune, aux cheveux bruns, sourcils fournis et regard pénétrant comme les yeux d'un chat. Des gardiens de la paix et des gendarmes sont mobilisés pour faire du porte-à-porte, montrer notamment aux habitants le fameux sac écossais laissé par le tueur. Celui-ci est exposé à la mairie de Nogent où la population est appelée à défiler. Des ouvriers de l'usine de Montataire, une commune limitrophe, croient alors reconnaître la besace de l'un de leurs collègues, Marcel Barbeau, celui qu'on appelle le Grand parce qu'il est costaud et a fait de la boxe. Mais aucun de ces hommes ne donne son nom, pas question de dénoncer l'un des leurs. 9 personnes sont entendues, mais aucune n'a le profil de l'assassin. Celui qu'on appelle désormais officiellement le tueur de l'ombre reste anonyme. Il va le rester longtemps puisqu'il ne va plus faire du tout parler de lui. 3 ans et 3 mois de silence. Le tueur de l'ombre va reprendre du service. En ce début des années 70, il va relancer sa chasse frénétique aux femmes brunes qui habitent à Nogent-sur-Oise et aux alentours immédiats. Il va tuer 6 fois encore. Mardi 6 février 1973 au soir, Annick Delisle, 29 ans, ouvreuse dans un cinéma de Creil, s'apprête à rentrer chez elle, allée Paul Verlaine, à Nogent-sur-Oise. Elle n'a plus que quelques mètres à faire quand un homme qui la suit lui saute dessus. Son mari va découvrir un peu plus tard le corps d'Annick, en partie dénudé, poussé dans un buisson. Elle a été assommée à coups de matraque, achevée d'une balle dans la nuque. Annick Delisle, on s'en souvient, c'était déjà fait tirer dessus sans raison, il y a 6 ans, et avait déposé plainte. Les policiers ne font pas le rapport avec le tueur de l'ombre, ils penchent plutôt pour un meurtre passionnel. Le mari est interrogé mais mis hors de cause. 3 mois plus tard, 29 mai 1973, la stupeur s'empare de la région. 2 corps sans vie viennent d'être retrouvés dans le cimetière de Laigneville, au nord de Nogent. Il s'agit d'un couple d'amoureux qui était venu la veille au soir flirter dans ce coin tranquille. Eugène Stéphane, 24 ans, est écroulé dans sa voiture. Sa petite amie, Morissette Van Hift, 23 ans, gît à quelques mètres dans une mare de sang. Tous deux abattus avec une carabine 22 longs rifles. Un homme fait pour la première fois partie des victimes, mais pour les enquêteurs, aucun doute, le tueur de l'ombre est bel et bien de retour. Le cauchemar va durer encore 3 ans. 8 janvier 1974, Josette Routier, employée de banque, 29 ans, une femme brune comme les autres victimes. Le tueur l'attend chez elle, cachée dans les doubles rideaux. 2 balles dans la tempe, ses sous-vêtements arrachés. 26 novembre 1975, Julia Goncalves, 29 ans, employée de blanchisserie, retrouvée près d'un ruisseau, le bas du corps et la poitrine dévêtue, tuée par balle. Son sac et sa jupe sont retrouvés dans les fourrés. 6 janvier 1976, Françoise Jakubowska, 21 ans, secrétaire à EDF, agressée près de Creil, assommée, poignardée, achevée à coups de carabine. Son soutien-gorge et son slip ont été ôtés par l'assassin. Sous la houlette du commissaire Christian Jacob, L'inspecteur Daniel Neveu est alors chargé de l'affaire. Il reprend méthodiquement tous les cas d'homicides recensés dans la région. Il élargit même ses recherches aux nombreux cambriolages de ces dernières années. L'inspecteur Neveu est troublé par certains détails. Ici, une couverture tendue devant une fenêtre, comme lors du meurtre de Josette Routier, ou des photos de famille étalées en évidence, comme le ferait un voyeur. Le policier a le sentiment que le tueur de l'ombre et le cambrioleur ne font qu'un seul homme. L'inspecteur Neveu va constituer une liste de 150 suspects, parmi lesquels figurent un ouvrier du coin et un père de famille, Marcel Barbeau. Et le nom de Marcel Barbeau va finir par émerger, un colosse qui correspond point par point aux rares descriptions faites de lui. Au portrait robot aussi, un personnage peu bavard qui va nier obstinément les faits qui lui sont reprochés. À la mi-septembre 1976, le commissaire de Creil, Christian Jacob, reçoit un coup de fil anonyme édifiant. L'interlocuteur dénonce un homme qu'il présente comme le tueur de l'ombre. Il ne livre pas de nom, mais c'est tout comme. L'homme que vous recherchez a fait l'Algérie. C'est un ancien de l'usine Rivière de Montataire. Il est marié à une blonde et c'est aussi un voleur. Le portrait cadre avec un certain Marcel Barbeau. Ce dernier a été arrêté en 1974 en flagrant délit de cambriolage. Il était effectivement ouvrier à Montataire aux établissements Rivière et travaille à présent à l'usine Saint-Gobain. Il est marié à une secrétaire, Josiane, une jeune femme blonde. Le couple a deux enfants et vit quartier des Martinets à Montataire, une cité HLM récente. Qui plus est, l'inspecteur Neveu avait noté lors du double meurtre du cimetière que le tueur connaissait parfaitement les lieux et devait y venir souvent. Certaines tombes, bien entretenues, étaient au nom de Barbeau. Le 14 décembre 1976, Marcel Barbeau, 35 ans, est interpellé alors qu'il rentre chez lui. À son domicile, les policiers découvrent la carabine qui a servi aux deux derniers meurtres. Son épouse assure qu'elle ignorait tout de ce qui lui est reproché. Elle finit par admettre qu'après la publication du portrait robot, elle a un peu tiqué, mais n'a confié son sentiment à personne. 5 ans après son arrestation, le 25 mai 1981, Marcel Barbeau, décrit par le journal Le Monde comme un gros garçon rougeau qui a quitté l'école à 14 ans, fait son entrée dans la salle de la cour d'assises de l'Oise. Il est poursuivi pour 5 des 8 meurtres dont il était soupçonné. Parmi les pièces à conviction, une carabine Gekado 22 longs rifles, mais pas de preuves matérielles accablantes. Parmi les présomptions, le fait que les meurtres ont toujours été accomplis quand il était de repos. Barbeau nie méthodiquement les accusations. À propos des armes à feu et des poignards qu'il détient chez lui, il répond simplement « c'est ma passion ». Il se dit étranger à ces meurtres, il n'est pas un tueur. Quand le président de la cour lui demande des explications, l'accusé répond « Quelles explications, monsieur le président? Je suis innocent de ces crimes, je le dis depuis 5 ans. » Le 10 juin, après 19 heures de délibéré, Marcel Barbeau est déclaré coupable, condamné à la perpétuité. Il sera rejugé suite à un pourvoi en cassation, mais à nouveau condamné à la perpétuité. Marcel Barbeau, tueur de l'ombre, passe cette fois réellement à l'ombre. Et pour de très longues années, en fait, il ne va jamais sortir de prison, devenant au fil du temps le plus ancien détenu de France. Le 10 août 2021, Marcel Barbeau fêtera ses 80 ans. Il aura passé le plus clair de son existence derrière les barreaux. Il est devenu le plus ancien détenu de France, un homme qui a passé 45 ans en prison sans discontinuer. Marcel Barbeau est détenu à la centrale de Saint-Maur dans l'Indre. Un prisonnier, selon le journal Le Parisien, qui continue à se lever très tôt, marche beaucoup pour s'entretenir et ne pose jamais de problème. Barbeau est un solitaire qui a tenu longtemps la bibliothèque de la prison. Il ne reçoit que de rares visites. Lors du procès, un psychiatre n'avait pas pu sonder réellement les tréfonds de son âme. L'expert s'était contenté de lui attribuer une personnalité banale. Barbeau n'est jamais revenu sur ses dénégations et a toujours répété qu'il était lui-même la 9e victime du tueur de l'ombre. Rien n'aura donc filtré sur ses possibles motivations, les raisons qui auraient pu l'entraîner à s'attaquer à des femmes brunes. Pour certains, le déclic aurait été la mort de sa mère en 1968, un traumatisme qui aurait complètement changé son comportement. L'inspecteur Neveu se souvient ainsi que la seule évocation de sa mère décédée le rendait irascible.